commence.
Nous profitons donc de ce moment de démocratie municipale pour soumettre au Conseil une proposition plutôt qu'une question. Dans le contexte écologique et économique actuel, les priorités, parmi d'autres d'ailleurs, de notre commune devraient être de promouvoir les circuits courts, aider l'agriculture bio à se développer localement dans le cadre d'un plan d'autonomie alimentaire, développer les transports non polluants, la production d'énergie renouvelable, la biodiversité, le zéro déchet, le compostage à grande échelle, etc. Autant de sujets importants qui pourraient être discutés au sein d'un groupe de travail pour la transition écologique composé d'élus, d'associations et d'habitants désireux de s'impliquer dans ce processus. Nous demandons donc la création de ce groupe de travail. Il aurait pour une mission prospective pour la vision de l'avenir face aux défis de demain.
Alors, monsieur le conseiller municipal, je ne peux que vous rejoindre sur les priorités que vous évoquez en matière d'écologie et d'économie. C'est pourquoi je me permets de vous rappeler la révolution que nous avons notamment apportée à notre restauration collective. Nous en avons parlé tout à l'heure, en allant au-delà de l'exigence Egalim, qui offre chaque jour à nos enfants des repas dont 60% des produits achetés sont issus de l'agriculture biologique, labellisée et ou locaux et super locaux. Bien sûr, beaucoup d'autres concrétisations ont petit à petit accompagné notre commune vers un avenir durable, les réhabilitations énergétiques, les pistes cyclables, les rénovations de l'éclairage public en cours. Concernant les transports, par exemple, vous avez pu constater ce soir notre volonté de rendre gratuits les transports en commun pour les seniors de plus de 65 ans, nos médaillés de la famille, enfin de l'enfance et des familles, et les rambolitains en situation de handicap. En ce sens, nous répondons concrètement à cette interrogation. Et pour revenir à votre question, sachez qu'un comité de sobriété énergétique, dont je viens de vous faire une communication à vocation technique, est d'ores et déjà installé depuis octobre 2022 et fonctionne très bien. Avec des rendez-vous réguliers, le comité a fait preuve d'une grande efficacité et ne cesse d'œuvrer pour la transition écologique à Rambouillet. Nous y retrouvons les services de la ville et parfois, lorsque la situation le demande, nous mobilisons des partenaires extérieurs, experts dans leur domaine. Naturellement, nous nous appuyons sur tout type de sources et ressources. D'autre part, je vous rappelle que tous les sujets que vous évoquez sont abordés dans des groupes de travail déjà existants. Le comité des circulations douces, auquel votre groupe participe, ainsi que des partenaires extérieurs, la commission restauration scolaire avec participation des enfants et qui est elle-même ouverte aux représentants de parents d'élèves, la CCSPL, dans laquelle vous êtes présent aux côtés de l'association de consommateurs, la commission urbanisme, où vous êtes présent également et associé aux décisions stratégiques, par exemple, sur le travail ayant porté sur le PADD, et plus largement au sein du PLU, sont associés les habitants pour connaître leur avis, notamment sur les critères environnementaux, sans compter les réunions avec les conseillers de quartier qui nous permettent d'être au plus proche des habitants et d'avoir des remontées de terrain. N'oublions pas aussi les budgets participatifs qui ont permis de donner la possibilité aux Rambouilletains de proposer de mettre en œuvre directement des projets sur la ville de Rambouillet en lien avec l'environnement. Comme vous le voyez, les Rambouilletains sont systématiquement consultés.
Oui, enfin, c'est vrai qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, parce que ce qu'on propose, c'est qu'effectivement, c'est de monter à une marge beaucoup plus haute que d'être sur des minimums légaux, par exemple. Sur,
vous on parlez est du
bio,
au-delà.
J'avais tout à l'heure dit, on est sur un minimum légal, le bio. Les énergies renouvelables, on n'est pas. Il faudrait qu'effectivement, on aille beaucoup plus loin. Quoi.
Alors, monsieur Poulet, je vous ai répondu que là, je vous apporte la réponse. Nous sommes sur des groupes de travail déjà existants et qui inclut largement des personnes non seulement élues, mais également des personnes de ce qu'on peut appeler la société civile. Je vous ai apporté la réponse.
Okay.
Question suivante.
Oui. Alors, bon, on va reparler suite à l'intervention de M. Petitpré. Donc, à compter du 1er janvier 2024, la loi donc, de février 2000, mais relative à la lutte de l'anti-gaspillage et puis de l'économie circulaire, tous les particuliers devront disposer d'une solution de compostage. Alors, il faut dire que le volume des biodéchets est assez conséquent. On sait que là, je ne l'ai pas marqué dans la question, mais ça représente à peu près, c'est marqué dans le sitcom, à peu près 33% des ordures ménagères, des foyers. Il revient aux collectivités territoriales, donc des communes ou de l'agglomération, de proposer à tous les foyers une solution de tri, en fonction évidemment de chaque situation. Il peut s'agir de la mise de disposition de composteurs individuels pour les rambolitains qui habitent dans des zones privées et pavillonnaires, ou de conteneurs collectifs déposés dans des espaces communs pour ceux vivant dans des immeubles ou dans des résidences. Ou alors installer en effet des bacs dans l'espace public, comme déjà il existe des bacs à verre. Alors de leur côté, les habitants seront invités à s'équiper de biosseaux, récipients permettant de collecter les déchets de cuisine, donc les biodéchets, avant de les déposer dans des bacs de tri collectif. Les simples citoyens de Rambouillet, mais également les professionnels de la restauration, n'ont pas été prévenus de cette directive. Alors, ça vraiment, c'est à titre personnel et dans mon entourage, j'ai demandé, il n'y a pas eu de communication proprement dit sur ce qu'ils doivent faire. C'est la question. Alors que d'autres villes, comme celle de Saint-Léger, ont lancé un questionnaire. En fait, vous devez l'avoir, mais évidemment, je l'ai. C'était une consultation sur leur population, de savoir qu'est-ce qu'ils savaient, qu'est-ce qu'ils souhaitaient en termes de récupération de biodéchets. Donc, ma question, évidemment, c'est la municipalité ou alors l'agglomération, donc Rambouillet Territoire, quelles sont les propositions que vous pensez mettre en place concernant les biodéchets, je veux dire concrètement pour le citoyen, pour le restaurateur, parce que j'ai fait une petite enquête cette semaine, les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Alors ils sont informés par la télévision, par les informations, etc. Mais réellement, sur notre territoire, ils ne sont pas informés.
Alors, Madame Desmé, vous avez parlé de la communauté d'agglomération. Eh bien, en effet, cette question relève de la compétence de l'agglomération et du SICTOM. Donc, je n'ai pas de réponse à vous apporter parce que, à chacun ses compétences, c'est déjà suffisamment compliqué pour nos administrés de savoir à qui s'adresser, pourquoi. Donc, en l'occurrence, pour ce qui est du tri de déchets, ça ne relève pas de notre compétence. Et donc, je vous laisserai vous rapprocher des autorités compétentes. On ne traite pas ici, en conseil municipal, de ce qui concerne d'autres instances.
Alors, je suis on est tout à fait au courant, en effet, que ça relevait de l'agglomération. Mais pour rejoindre M. Petitpré, quand vous disiez tout à l'heure que les rambolitains étaient équipés... cette année, il y avait eu un bon résultat sur les bacs à compost. Il faut savoir que c'est à peine 17% de la population donc des rambolitains qui sont équipés de bacs de compostage. 17%, c'est très, très peu. Après, ce qu'on oublie de dire, et je comprends, parce que ce n'est pas valoriser des biodéchets que de les brûler. L'usine d'incinération, elle est à 37 km de Rambouillet. Alors, l'impact de CO2 des camions, je ne sais pas combien... J'arrive pas à savoir, j'ai été voir le sitcom, j'arrive pas à savoir les camions, combien d'allers-retours ils font par mois, par semaine, mais néanmoins, ça a un coût énergétique. Et alors, une tonne de brûlé de biodéchets, parce que les biodéchets, c'est de l'eau. C'est composé à 80% d'eau. Brûler de l'eau, c'est une aberration écologique, parce qu'une tonne de biodéchets brûlés, c'est une tonne de CO2, vous le savez. Oui, c'est une tonne de CO2 émis. Donc, c'est énorme. Alors, on sait que les solutions sont difficiles à trouver, mais néanmoins, pour l'instant, l'incinération ou l'enfouissement, c'est une aberration écologique. Mais néanmoins, il existe des solutions qui sont proposées. Tout à l'heure, on en parlait de Sodexo, des cantines. Qui nourrissaient nos enfants, qui nourrissent nos EHPAD. Aujourd'hui, nous, en tant qu'écologistes, ça fait un moment que mes collègues, en amont sur les mandatures précédentes, ont proposé des zones de maraîchage. le maraîchage, la culture. Si aujourd'hui, une partie des biodéchets pouvait aller, en effet, parce qu'on n'a pas d'autre solution momentanément, de faire un peu d'incinération, 37 km à chaque fois, mais aussi si on avait des zones maraîchères pour en effet...
Madame Desmé, on est parti complètement
mais non, mais
en dehors.
Lien, non, mais je fais un lien aux biodéchets et aux traitements.
Non. Votre question, Madame Desmé, c'était sur la récupération des biodéchets. Je viens de vous expliquer que ça n'était pas de notre compétence et que donc ça ne faisait pas partie des choses qu'on abordait ici. Merci, madame, de respecter.
Savoir ce qu'il doit faire.
C'est... Oui. Les rambolitains doivent peut-être savoir, mais ça n'est pas ici et ça n'est pas l'instance ad hoc. Donc, on clôt le sujet. Il est déjà tard. Il y a d'autres questions ensuite.
Merci. Sans réponse, on tente en bulletin. Donc voilà, là, je comprends pas.
Non, mais Madame Desmé, il y a une police de cette instance. Cette instance est une instance municipale. On aborde les sujets qui peuvent être traités par la municipalité. Merci de respecter cela. C'est tout. On passe à la question suivante. Merci, Madame.
Je vous en prie.
Oui, Madame le maire, j'ai plus l'écrit de la question sous les yeux. Ça concerne le pont de la Mare au Mouton, pour lequel il y avait un projet d'élargissement qui malheureusement n'a pas pu se faire. Il était question de profiter d'un changement de tablier du pont par la SNCF pour faire un élargissement de ce pont, pour permettre aussi le passage des bus. Et malheureusement, c'est tombé à l'eau. Et on a maintenant, juste à côté du pont de la Mare au Mouton, un énorme projet qui est le nouvel hôpital qui, voilà, on espère qu'il va pouvoir se faire, même si pour l'instant, rien n'est arrêté. Mais ça va poser aussi des problèmes d'accès depuis la partie est de la ville. Ça va poser également, sans doute... Une augmentation du trafic. En tout cas, la circulation dans cette zone va devoir être repensée. Est-ce qu'il vous semble possible de remettre ce projet sur les rails, en tout cas à l'adosser au projet de futur hôpital ?
Alors, sur le futur hôpital, on n'a toujours pas de nouvelles. En effet, vous le disiez, on n'a toujours pas, même pas de date de commission nationale de santé de l'ARS. Donc, on attend bien sûr avec impatience le résultat. Quoi qu'il en soit, sachez que, bien sûr, autour de ce nouvel hôpital, ce projet-là sera abordé dans sa globalité avec toutes les externalités qu'il y a à penser et que, éventuellement, le pont de la Mare au Mouton pourra en faire partie. Mais je rappelle tout de même que s'il avait été abandonné, c'était aussi par rapport au budget que cela représentait. Et cela demandera en effet un accompagnement de l'État, de la région, voire d'autres instances, parce que ça n'est certainement pas la ville qui pourra porter cela complètement. Mais ça fera l'objet forcément, si l'hôpital est installé en effet, on l'espère, ça fera l'objet d'une reprise totale de cette zone. Je vous en prie. Question.
Madame le maire, depuis de nombreuses années, une voie rambolitaine est source de nombreuses interprétations et confusions. Le 15 novembre 1935, le conseil municipal de Rambouillet a décidé à l'unanimité de renommer la route d'Ably, rue G. Lenôtre, en référence au grand historien de la Révolution française. G. Lenôtre est le nom de plume de Louis-Léon Théodore Gosselin. Or, depuis un certain temps, ce nom de rue est très souvent associé à tort à Georges Lenôtre. Nous proposons que la rue G. Lenôtre soit rebaptisée Gosselin Lenôtre dans le but de mettre un terme à toutes ces confusions. Louis-Léon Théodore Gosselin disait la chose suivante, j'ouvre les guillemets, « Le G que j'ai mis devant ne signifie ni Georges, ni Guy, ni Gaston, ni même Gédéon, comme certains le croient et le disent, mais tout simplement Gosselin, qui est mon nom de contribuable. »
Alors, monsieur le conseiller municipal, si la dénomination d'une voie publique est du ressort des communes, pour les riverains, ces changements entraînent des conséquences et impliquent des démarches administratives parfois longues. Les dispositions à mettre en œuvre s'apparentent en effet à celles d'un déménagement, mais sans déménagement effectif. Il s'agit d'informer tous les interlocuteurs du changement d'adresse, mais non de domicile. Si la carte d'identité, le passeport et le permis de conduire n'ont pas lieu d'être modifiés, la carte grise, par exemple, doit l'être sous un délai d'un mois. Il faut également penser à signaler son changement d'adresse auprès de tous les organismes publics et privés concernés. Les services de l'État, dans le cadre de la mise à jour des bases d'adresses locales prévues par la loi 3DS, ont précisé qu'un changement de nom de rue devait être mesuré et préconise de ne pas changer l'adresse si celle-ci fonctionne bien. Exemple, si le courrier est bien acheminé. L'important est que les immeubles soient identifiés clairement, tant pour faciliter le repérage pour les services de secours, ce qui est important, SAMU, pompiers, gendarmes, que le travail de la poste et des autres services publics et commerciaux, ainsi que la localisation sur les GPS. En conclusion, votre réflexion est intéressante, mais au vu des conséquences pour les nombreux habitants de cette rue, il semble raisonnable de ne pas apporter de modification, mais plutôt de rappeler à toute occasion se présentant l'origine du nom de cette rue. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans nos tournées quand on accueille les nouveaux rambolitains. Bien, eh bien, écoutez, ici s'achève cette séance. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne nuit.